Séminaire sur l'argument ontologique, feuille urbain, Saint-Joseph, le 9 mai 1985.
Et alors, il va se prendre un petit peu pour le prophète, un grand prophète, qui est un petit peu à l'exemple du tableau de Delacroix, la liberté conduisant les peuples. Alors lui, il doit conduire les peuples vers la liberté. Alors justement, on passe devant sur un tas de cadavres, et le cadavre sera Dieu. On peut dire que Feuerbach a deux grands maîtres. On pourrait dire qu'il a un maître mort, qui est Descartes, ça il ne le dit pas, c'est nous qui pouvons le dire, et un maître qui est vivant, Hegel, puisqu'il a suivi pendant 2 années les cours de Hegel. Mais petit à petit, Feuerbach va se séparer un petit peu de la pensée de Hegel. Il dit qu'il va se séparer, mais en fait on va voir combien il va rester lié à cette pensée. Et en 1839, il écrit la contribution à la critique de la philosophie de Hegel, où dans cette critique, il reproche à Hegel de rester à un niveau de concept, au niveau des idées, donc au niveau de la pensée, sans jamais descendre dans le concret. Il va reprocher à Hegel, entre autres, de rester au niveau d'une théologie, que toute la pensée d'Hegel est une théologie. Et une théologie donc qui plane au niveau des idées, mais qui ne descend jamais dans l'individu. Et au nom d'un réalisme, il va s'opposer à Hegel. Il va essayer de trouver quelque chose de plus fondamental, et pour lui, ça va être l'homme dans son individualité, l'homme dans son cas concret. Alors il faudrait se poser maintenant la question, quel est le lien qu'a Feuerbach avec le séminaire de cette année? On ne peut pas dire que Feuerbach soit ontologiste, parce qu'il ne cherche pas à donner une preuve de l'existence de Dieu, bien au contraire. On ne peut pas dire non plus qu'il est athée, parce que lui dit qu'il n'est pas athée. On pourra le dire. Aussi, on peut dire qu'il est athée, mais je veux dire, on ne peut pas tout de suite affirmer trop vite qu'il est athée. Donc il semblerait que sa position, lui, se situe un petit peu au milieu, c'est-à-dire qu'il va se servir de la ligne des ontologistes, il va se servir de tout ce qu'ils ont dit pour sa proposition qui est de libérer l'homme. Et en fait, on va voir que quand il dit qu'il veut libérer l'homme, en fait, il est déjà athée parce qu'il supprime Dieu. Mais ce sont surtout Marx et à sa suite tous les grands athées qui vont servir de lui, d'une certaine manière, de ses conclusions, pour passer vraiment à l'athéisme. Alors donc, il se sert de la ligne des ontologistes, notamment il va servir de Descartes, puisqu'il connaît très bien Descartes, pour montrer que ce que l'homme adorait comme son Dieu qui est autre que lui, donc qui met l'homme dans une dépendance de créature face au Créateur, cette dépendance qui est aliénante, donc ce Dieu n'est autre que l'homme lui-même, parce que l'homme possède en lui-même quelque chose d'infini, qui est son essence. Pour lui, l'essence de l'homme est infinie. Et on va voir que, en reprenant les arguments de Descartes, on va identifier l'infini que l'homme possède, pleinement dans son espèce, puisque l'homme individuel ne possède pas cet infini vraiment. Il va identifier cet infini avec la conscience religieuse, qui est la conscience de l'infini pour Descartes. Alors donc, Feuerbach dit, l'homme est pour lui-même l'être suprême. Il l'est dans son essence, plus précisément dans l'essence de l'espèce. Alors pour Feuerbach, tout ce qui est théologie n'est autre qu'une pathologie psychique. Ça, c'est vraiment des termes à lui, pathologie psychique. Parce qu'elle est projection de notre propre perfection sur un autre. Donc, si vous voulez, Dieu vole l'homme de ses propres perfections. Et il va s'opposer notamment à la théologie chrétienne. Parce que justement, la théologie chrétienne va détenir, dans la tradition, va détenir l'interprétation des Écritures. Et lui va vouloir réinterpréter les Écritures parce que Jésus a voulu simplement libérer l'homme. Il est le grand prophète qui veut révéler à l'homme ce qu'est l'homme. Et la tradition chrétienne a mal compris, a réinterprété ce qu'a dit Jésus par rapport à un phénomène religieux de projeter sur un Dieu qui est autre que nous. Et lui va vouloir justement récupérer ça. Donc il est la mesure du Christ, ça c'est très net. Il va réinterpréter les paroles du Christ. Il faut penser à des paroles que dit Jésus, « Qui me voit le Père ». Donc qui voit l'homme, voit Dieu. Pour lui, ça veut dire ça. Ou la phrase de Jésus, « Le Fils de l'homme ». Pour lui, c'est des choses qui va tout de suite réinterpréter. Il dit quelque chose de très net là-dessus. Je me contente de jouer le rôle d'auditeur et d'interprète, mais non de souffleur. Ne pas inventer, mais découvrir, dévoiler l'existence, tel fut mon unique but. Ce n'est pas moi, c'est la religion qui adore l'homme, bien que la religion, ou plutôt la théologie, le nie. Ce n'est pas ma modeste personne seule, mais la religion elle-même qui dit « Dieu est homme, l'homme est Dieu ». Ce n'est pas moi, c'est la religion elle-même qui désavoue et renie ce Dieu qui n'est pas homme, mais seulement un être de pensée, quand elle oblige Dieu à se transformer en homme et attend qu'il ait emprunté la forme, les sentiments et le tour d'esprit humain pour faire de Dieu l'objet de son adoration et de son culte. Je n'ai fait que trahir le secret de la religion chrétienne, que déchirer le tissu de mensonges et de tromperies plein de contradictions de la théologie. Si donc mon livre est négatif, irréligieux, athée, que l'on réfléchisse que l'athéisme, au sens où ce livre l'entend du moins, est le secret de la religion elle-même, que la religion elle-même, non pas dans son dehors, mais dans son fond, non dans son opinion et son imagination, mais dans son cœur, dans sa véritable essence, ne croit à rien d'autre qu'à la vérité et à la divinité de l'être humain. Donc si Jésus est le prophète, ça, il reconnaît que le Christ est un grand prophète, lui est plus grand et le grand grand prophète. C'est lui qui va expliquer Jésus pour conduire l'humanité vers un progrès, la découverte de l'identité propre qu'a cette humanité, qui est sa divinité. Donc l'antithéologie de Feuerbach s'appelle ni plus ni moins anthropologie. Alors nous allons essayer dans une deuxième partie de rentrer plus précisément dans la pensée de Feuerbach avec l'essence du christianisme pour voir comment Feuerbach affirme que l'homme est Dieu. Donc ce souci de partir de quelque chose de plus concret qui est l'homme, l'homme individuel, on va le voir tout de suite. L'essence du christianisme a été écrite en 1841. Donc là, nous prenons la première introduction de l'essence du christianisme. L'autre sera écrite en 1843. Feuerbach va partir d'une affirmation qui repose sur une constatation. La religion repose sur cette différence essentielle qui distingue l'homme de l'animal. Les animaux, en effet, n'ont pas de religion. Donc, il faut tout de suite établir ce qu'est cette différence. Et Feuerbach va répondre tout de suite, c'est la conscience au sens strict. Pour lui, la conscience, c'est vraiment son sommet. On va voir que toute sa philosophie se situe premièrement, à un niveau logique, et deuxièmement, au niveau du vivant. Il ne dépasse pas du tout le niveau du vivant. Alors, quelle est donc cette différence essentielle qui distingue l'homme de l'animal? À cette question, la plus simple et la plus générale des réponses, mais aussi la plus populaire, est « c'est la conscience ». Mais la conscience au sens strict, car la conscience qui désigne le sentiment de soi, le pouvoir de distinguer les objets sensibles, de percevoir et même de juger les choses extérieures sur les indices déterminés, tombant sous les sens, cette conscience ne peut être refusée aux animaux. La conscience, entendue dans le sens le plus strict, n'existe que pour un être qui a pour objet sa propre espèce et sa propre essence. Sans doute, l'animal est objet pour lui-même en tant qu'individu, et c'est pourquoi il possède le sentiment de soi, mais non en tant qu'espèce. Donc on distingue deux sortes de conscience, la conscience du soi, qui est la conscience de l'animal, c'est-à-dire que l'animal a pour objet lui-même en tant qu'individu. Et la deuxième, qui est la conscience au sens strict, l'individu qui a pour objet sa propre essence et sa propre espèce. Donc l'essence, c'est la conscience que nous avons de ce qui fait que nous sommes nous-mêmes dans ce que nous avons de plus nous-mêmes. Pour lui, l'essence, ça va être l'être de l'homme. Et l'espèce, qui est cette capacité de reconnaître tous ceux qui ont la même essence et de le mettre dans un même groupe. Pour lui, celui qui est capable de reconnaître l'espèce est quelqu'un qui est capable de conscience, c'est-à-dire qui est capable de science, de reconnaître, d'avoir cette conscience qui lui permet de reconnaître son essence et son espèce. Donc, est capable de conscience au sens strict, celui qui peut passer de son individualité à son essentialité, donc qui donne l'essence, du cas particulier de l'individu à l'espèce, le cas particulier à l'universel en fait. Le cas particulier c'est l'individu, et l'espèce représente l'universel pour lui. Et ça, cette chose que fait l'intelligence, ça se fait par l'abstraction, qui montre bien qu'on est à un niveau logique. Et l'espèce, cet universel a quelque chose d'infini, l'espèce. cœur. Donc, on aboutit à une sorte de première distinction qui est le fondement de la religion. La religion repose sur la conscience au sens strict, la conscience de l'essence et de l'espèce, ou plus précisément la conscience de l'essence de l'espèce. Donc, capax dei, celui qui est capable de Dieu, pour lui, c'est ni plus ni moins celui qui est capable d'abstraction, capax abstractum, en fait. C'est tout ce qui montre qu'on est au niveau logique. Donc maintenant, il faut préciser quelle est l'essence de l'homme. Mais quelle est donc alors cette essence de l'homme dont l'homme prend conscience, ou qu'est-ce qui constitue l'espèce, la véritable humanité dans l'homme? C'est la raison, la volonté et le cœur. Tout homme accompli possède la force de la pensée, la force de la volonté et la force du cœur. La force de la pensée est la lumière de la connaissance, la force de la volonté l'énergie du caractère, la force du cœur l'amour. La raison, l'amour et la volonté sont des perfections. Elles sont des forces suprêmes, l'essence absolue de l'homme comme homme et le but de son existence. L'homme existe pour connaître, pour aimer et pour vouloir. Donc trois forces qui forment l'essence de l'homme, la raison, la volonté et le cœur. Il y a une séparation amour et volonté, ça il semblerait que ça vient de Descartes. Donc pour Feuerbach, la religion est fondée sur la conscience que l'homme a de son essence, c'est-à-dire la raison, la volonté et le cœur. Cette essence de l'homme que l'homme ne possède pas dans son individu, puisque l'homme est quand même limité, l'homme peut mourir, cette essence, il va la posséder pleinement dans l'espèce. Cette essence est à la fois la finalité de l'homme et la finalité de l'espèce, la finalité de l'individu, c'est-à-dire que la raison, la volonté, le cœur sont des perfections, qui elles finalisent elles-mêmes l'individu, mais elles finalisent l'homme dans son espèce. Trois forces absolues suprêmes qui sont pour elles-mêmes leur propre perfection, leur propre finalité. Alors, ces trois forces sont immanentes à l'homme, puisqu'elles résident dans l'individu, mais elles sont à la fois transcendantes à l'homme, parce qu'elles appartiennent à l'espèce, elles n'appartiennent pas à l'individu. Donc, l'essence est infinie dans l'espèce, et l'espèce est infinie par rapport à l'individu. C'est vraiment, tout va jouer sur le terme infini par rapport à la conscience. Donc, l'essence de l'homme, la conscience que l'homme prend des trois forces, raison, volonté, cœur, constitue l'être de l'homme. L'être de l'homme, son essence, possède en elle-même sa propre finalité. Alors là, on voit bien qu'il y a une identification entre deux niveaux, le niveau de l'être et le niveau de la vie. On aboutit, avec Feuerbach, à une deuxième distinction qu'on est obligé de faire. Il dit, donc, la première, c'était l'essence de l'homme et le fondement de la religion. Et la deuxième distinction, c'est celle-ci. Dans ce qui le distingue de l'animal, l'essence de l'homme est non seulement le fondement, mais aussi l'objet de la religion. Pourquoi ? Parce que le fondement de la religion, l'essence de l'homme, la raison, la volonté et le cœur sont les sujets qui forment l'homme. Mais comme ces forces, ces trois forces, sont la perfection de l'homme, elles sont par rapport à l'homme l'objet de l'homme. Donc, l'objet de la religion sont ces trois forces qui sont à la fois le fondement de l'homme. Nous avons vu le fondement, l'objet de la religion. Il nous reste maintenant à voir qu'est-ce que c'est que la religion pour Feuerbach. Et Feuerbach répond, la religion est la conscience de l'infini. Alors là, tout de suite, on reconnaît Descartes qui se profile derrière et qui va servir la position de Feuerbach. Donc maintenant, il est facile de fermer la boucle. Il suffit d'identifier la conscience de l'infini qui est la religion avec la conscience de l'essence de l'espèce qui est infinie. Alors attention, là prenez bien votre respiration parce que ça devient indigeste. La conscience est par essence universelle et infinie. La conscience de l'infini n'est rien d'autre que la conscience de l'infinité de la conscience. En d'autres termes, dans la conscience de l'infini, le sujet conscient a pour objet l'infinité de sa propre essence. Ce qui veut dire ni plus ni moins qu'on identifie ces deux choses, que ce qui est la conscience religieuse, donc la conscience que l'homme, le sentiment que l'homme a de l'infini, on l'identifie avec l'infini qu'on a nous-mêmes, déjà dans notre individu, qui est la volonté, le cœur et la raison, qui sont infinis dans l'espèce. Tout ça parce que le propre objet, le fondement et l'objet sont en rapport avec l'homme lui-même. Donc c'est comme ça que l'homme est pour lui-même son propre Dieu, et que Dieu est l'homme.
Après avoir rappelé que le divin n'est que l'infini et que toute connaissance nous découvre quelque chose de l'essence de l'homme, on va essayer de voir ce qui fonde l'essence propre de la religion chrétienne, c'est-à-dire que c'est une conscience médiatisée de l'essence de l'homme qui sera cachée à travers un halo religieux imaginatif qui est Dieu. On verra que Dieu, en fait, ne sera qu'un pur produit de l'imagination. Et enfin, on verra le progrès historique des religions qui consiste à rendre à l'homme la claire conscience de soi. Donc, comme on vient de voir, tout ce qui est infini est divin. C'est pourquoi l'objet de la religion n'est autre que la conscience de l'infini. L'essence de l'homme est non seulement le fondement, mais aussi l'objet de la religion. Or, la religion est conscience de l'infini, et ce qui est infini, c'est l'essence de l'homme. La religion ne peut donc être que la conscience que prend l'homme de son essence infinie, et l'individu en lui-même est limité et borné, tandis que l'essence, elle, est infinie. La limite de l'espèce, qu'on attribue à l'espèce, est due au fait que l'individu attribue ses bornes propres à l'espèce. C'est ce que va nous montrer Feuerbach. En fait, l'individu est en lui-même infini par ses opérations génériques, cette trinité divine intérieure qu'on a vue, donc la raison, la volonté et le cœur, mais il n'est pas capable d'assumer ça, et par peur, eh ben, il va attribuer ses limites propres à l'espèce. En fait, tout être est en lui-même et pour lui-même infini. Ça, c'est Feuerbach qui le dit lui-même. Par la participation à l'espèce dans les trois opérations génériques. D'autre part, pour Feuerbach, le sentiment est l'organe de la religion. Il tire sa théorie du sentiment de deux philosophes allemand contemporain de Fichte, fin 18e, Schleiermacher et Jacobi. Pour eux, est religieux non ce qui touche à Dieu, mais uniquement ce qui est objet du sentiment. Ainsi, depuis que le sentiment est devenu l'essence de la religion, c'est une citation de Feuerbach, les articles de la foi chrétienne sont devenus indifférents pourvu qu'un autre objet provoque les mêmes sentiments. Le but, ce n'est pas de chercher Dieu, c'est de provoquer des sentiments. Ainsi, le divin, c'est la nature du sentiment qui est infini. Citation. Sens-tu l'infini, tu sens et tu affirmes l'infinité du pouvoir du sentiment. Donc c'est toujours la même chose, ce qui est divin, c'est ce qui est infini. Or, le sentiment est infini, donc il est divin. Or, ce qui est vrai du sentiment est vrai pour toute activité, puissance ou réalité que l'on détermine comme étant l'organe essentiel d'un objet. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse, l'homme ne peut faire abstraction de son espèce et de son essence. Il ne peut dépasser son essence vraie qui est infinie. Toute connaissance va révéler à l'homme quelque chose de son essence infinie. Ainsi, Feuerbach va nous montrer que Dieu est un Dieu complètement immanent, car il ne peut être distinct de l'homme. Il n'est que l'essence de l'homme révélée. Citation. Ce qui est Dieu pour l'homme, c'est son esprit et son âme. Toujours pourquoi ? Parce qu'elles sont infinies. Le Dieu de la religion n'est qu'un fruit de l'imagination, auquel l'homme prête des déterminations qu'il ne peut tirer que de sa propre essence. Oui, bien sûr, parce que sa propre essence est infinie, c'est ce qu'il y a d'ultime, et il n'y a rien à chercher de plus grand et ailleurs. Tout objet révèle à l'homme ce qu'il est. Or, cette connaissance par laquelle l'homme se connaît par l'objet est vraie d'une manière éminente pour l'objet religieux. En effet, Si l'objet sensible est extérieur à l'homme, l'objet religieux, lui, est intérieur à l'homme. C'est un objet choisi, élu. L'objet religieux n'est rien d'autre que l'essence de l'homme prise comme objet. Tandis que dans la connaissance sensible, on peut distinguer la conscience de l'objet de la conscience de soi, dans l'objet religieux, la conscience de l'objet coïncide avec la conscience de soi. Feuerbach dit « Telle est la pensée de l'homme, telles sont ses convictions, tel est son Dieu. » De là, il n'y aura plus qu'un pas pour affirmer ce qu'il dira un peu plus tard dans sa pensée, « Homo homini Deus, l'homme est le Dieu de l'homme. » Tout à fait dans la vie. En effet, puisque la religion est conscience de l'infini et que seule l'essence de l'homme est infinie, la religion est donc la conscience de soi de l'homme. Maintenant, on va voir ce qui fonde l'essence propre de la religion chrétienne. Enfin, la religion telle qu'il la critique, c'est-à-dire la religion chrétienne. Ce qui fonde l'essence de la religion, c'est le fait que l'homme religieux ignore que la conscience qu'il a de Dieu est en fait la conscience de soi de sa propre essence. C'est pourquoi l'homme religieux a une conscience de soi indirecte, on pourrait dire médiatisée si vous voulez. Ainsi, historiquement, la religion est la première conscience de soi de l'homme. C'est une conscience indirecte car l'homme n'a pas conscience de son essence en tant qu'essence, mais en tant qu'elle est un objet autre que lui, l'objet religieux. C'est-à-dire, il adore sa propre essence en fait, mais en croyant adorer un Dieu qui est haut. C'est parce que la religion est la première conscience de l'homme que la religion précède partout la philosophie, aussi bien dans l'histoire de l'humanité que dans l'histoire de l'individu. C'est ce qu'il va montrer en regardant le progrès historique des religions. L'homme projette d'abord son essence hors de lui, avant de la retrouver en lui-même. Ça, c'est tout le mouvement de la religion. Donc, citation, c'est pourquoi le progrès historique des religions consiste en ce que l'on considère maintenant comme subjectif, ce que les religions primitives, c'est-à-dire la religion chrétienne, tenaient pour objectif. Autrement dit, en ce que l'on connaît maintenant comme humain, ce qui était jadis contemplé et adoré sous les espèces de Dieu. Parce que je crois que c'est assez important de noter qu'il parle de progrès historique des religions qui est directement dans la philosophie de l'histoire de Hegel. Alors par exemple, il montre quelques exemples. On attribuait à Dieu autrefois ce qu'aujourd'hui on attribue à la nature ou à la raison. Ainsi par exemple, autrefois, il pleuvait après qu'on ait dit par exemple l'érogation. On croyait que c'était Dieu, maintenant on a compris que c'était la nature. Tout progrès de la religion telle qu'il entend, au sens où Feuerbach le comprend, est donc un approfondissement de la connaissance de soi. Ainsi, seul le penseur peut découvrir la religion jusque dans son fondement, car lui seul peut la prendre pour objet. Oui, parce que lui est libéré déjà de l'aliénation religieuse. En effet, l'homme religieux est aliéné. Il ne peut avoir ce regard critique, lucide sur la religion, car il est prisonnier de sa croyance. Il n'atteint pas la claire conscience de soi. On voit donc dans une telle vision qu'il n'y a pas de distinction de niveau entre le domaine de la foi et celui de l'intelligence, mais que par la conscience à laquelle tout se ramène, on peut dire que la raison engloutit tout l'homme, si on veut, et la différence entre la philosophie et la religion, telle que l'entend Feuerbach, n'est qu'une différence de degré dans la conscience de l'essence de l'homme, dans un mouvement historique. Ainsi, dans l'âge religieux, l'homme n'a conscience que de son individualité limitée et bornée. Ainsi, ignorant son essence infinie, il invoque un principe autre que lui qu'il appelle Dieu, mais qui n'est autre que son essence, mais non objectivée. Elle est comme cachée par un halo imaginatif. Le penseur, lui, va révéler à l'homme son essence et le libérer de l'aliénation religieuse en montrant que l'opposition divin-humain est illusoire. Cela, Feuerbach le fera très habilement non pas en attaquant la religion, mais en se présentant comme un défenseur de la religion et en lui donnant un sens tout autre. Comme on le voyait dans le texte tout à l'heure, je ne suis pas souffleur, je suis juste interprète. Alors comment Feuerbach explique-t-il le dieu de la religion? Il va d'abord s'appuyer sur Leibniz dans son introduction à la Théodicée pour montrer que l'être de Dieu n'est rien d'autre que l'être de l'homme, mais débarrassé de ses bornes d'individu. Alors, citation de Leibniz: les perfections de Dieu sont les perfections de nos âmes à ceci près que Dieu les possède sans leurs bornes. Il semble bien que dans cette vision, enfin, où il apparaît comme une certaine laïcisation des attributs de Dieu, c'est l'infinité de Dieu qui est le premier attribut et non la simplicité. Et ce qui commande tout, c'est que ce qui est divin, c'est ce qui est infini. Donc c'est la toute-puissance qui sera mise avant la simplicité. Feuerbach remarque que tout le monde est d'accord pour nier les prédicats de l'homme sans leur borne, c'est-à-dire attribués à Dieu, mais personne n'ose nier le sujet, nier Dieu, franchement. Celui qui refuse des prédicats divins admet bien l'infinité de la raison, mais par un vieux reste de religiosité, n'ose pas faire disparaître Dieu. Il le nie pratiquement en vivant comme si Dieu n'existait pas, mais il le laisse subsister théoriquement. Si vous voulez, c'est une position confortable pour pas avoir de scrupules, parce que comme il reste toujours un peu de religiosité, ben, il faut bien que Dieu existe. Et puis voilà, c'est une idée reçue. Quand on a admis que les prédicats divins étaient des anthropomorphismes, il faut aussi admettre que le sujet lui aussi est un anthropomorphisme. Alors Feuerbach nous dit: il n'y a que l'inconséquence d'un cœur lâche et d'une pensée débile pour renoncer à pousser cette conscience jusqu'à la négation formelle des prédicats, et de cette première négation à la négation de l'être qui leur sert de fondement. Car un être n'existe qu'en étant qualifié. Mais c'est là qu'on sent très fort son idéalisme, c'est que pour lui, ce n'est pas l'existence qui est première, mais il regarde d'abord les prédicats, l'attribution. Citation: car la nécessité du sujet ne tient qu'à la nécessité du prédicat. La certitude et la réalité de l'existence de l'homme ne tiennent qu'à la certitude et à la réalité des propriétés humaines. Le prédicat est la vérité du sujet. La négation des prédicats est donc la négation du sujet. C'est logiquement sa pensée. Il nous dit d'autre part que l'existence dépend de la vérité. En effet, citation, à l'origine, l'homme fait dépendre la vérité de l'existence et plus tard seulement l'existence de la vérité. Alors il faut voir comment il conçoit le vrai. C'est assez particulier. On entend par vrai le contraire de ce qui est seulement rêvé, représenté et imaginé. Donc on voit que ce qui est vrai, ce n'est pas ce qui est existant, mais il comprend le vrai par opposition à ce qui n'est pas. Le développement de la culture humaine, parallèle au cours de l'histoire de la religion, montre bien qu'il y a identité entre prédicat divin et prédicat humain. Ainsi, quand l'homme construit des maisons, il enferme aussi ses dieux dans des temples. Quand l'homme passe de la barbarie à la civilisation et distingue ce qui convient de ce qui ne convient pas, il distingue aussi ce qui convient de ce qui ne convient pas pour Dieu. Donc on voit qu'il y aura dans toute l'histoire de la religion une espèce de parallèle entre le développement culturel de l'homme et la place que tient Dieu pour l'homme. Finalement, la religion n'a pas d'objet propre, car ce qui est objet de la religion, c'est tout ce qui dépasse l'homme, tout ce qu'il ne peut pas expliquer. Ainsi, la religion embrasse tous les objets du monde. Et nous, on a dans un tas d'exemples qu'à Rome, il y avait même des temples de la crainte, de la peur, que tous les phénomènes naturels que l'homme ne peut pas comprendre, il les attribue à la religion. Par exemple, les éclairs, le tonnerre, etc. D'autre part, la religion est caractérisée par un phénomène qui lui est tout à fait propre. Autant on attribue de choses humaines à Dieu, autant on creuse la distance entre l'homme et Dieu. Pour enrichir Dieu, l'homme doit se faire pauvre. mais rien de ce qu'il se retire n'est perdu, puisque tout cela est conservé en Dieu, en qui il a inconsciemment sa propre essence. Mais c'est très simple, en fait. Vous avez comme un capital de vie. Et il faut faire une séparation entre ce qui est attribué à Dieu et ce qui est attribué à l'homme. Alors, on va voir que dans les religions primitives, on attribue tout à Dieu, jusqu'au phénomène naturel. Donc ça, c'est le mouvement des religions primitives, anciennes, qui sont aujourd'hui débattées. Feuerbach, lui, va libérer l'homme et montrer que tout ce qu'on attribue à Dieu, en fait, c'est l'homme qui va le récupérer, et qu'en fait, ce n'est rien d'autre que l'homme, et que l'homme est infini. Et tout ce qui, donc tout ce dont l'homme se prive, c'est conservé en Dieu, et il en a. Et de tout ce dont il se prive, il a une jouissance incomparablement plus haute. Mais parce que ce qui est en Dieu, en fait, ça, c'est dans l'essence de l'homme, inconsciemment, mais ça y est quand même. Donc, on a du mal à comprendre. On a une jouissance plus haute de ce dont on se prive. Enfin, lui le comprend parce qu'en fait, c'est dans l'essence de l'homme. Et qu'en fait, c'est là qu'on se retrouve. Quoi. Ainsi, plus on nie quelque chose en l'homme, plus on le retrouve en Dieu. Et ainsi, inconsciemment, la religion réaffirme réellement en Dieu tout ce qu'elle nie consciemment en l'homme. Ainsi, l'homme limite sa raison et ne peut rien savoir de Dieu. Ça rappelle ce que dit la scolastique, où on ne peut pas connaître le quid de Dieu. Donc on ne peut rien savoir de Dieu, mais en échange, Dieu a des pensées humaines, etc. Il va montrer ça. La sainteté est la conformité de l'individu à l'essence de l'homme, et le péché sera une contradiction entre l'individu et l'essence. Le péché, c'est priver l'essence de ce qui lui est dû. L'augustinisme et le pélagianisme nous montrent bien que la différence entre l'homme et Dieu n'est qu'une illusion pieuse, une apparence. Le pélagianisme fait de l'homme un dieu et ni Dieu. L'augustinisme fait de Dieu un homme qui meurt sur la croix, donc qui est anéanti. Le pélagianisme met l'homme à la place de Dieu, puisque c'est le salut de l'homme par lui-même, par ses mérites propres. Et l'augustinisme, Dieu à la place de l'homme, mais oui, puisque Dieu meurt comme l'homme. Donc maintenant, il va expliquer de manière plus théorique, plus philosophique et scientifique ce qu'est la religion. La religion se comprend dans deux mouvements perpétuels semblables aux deux mouvements du sang. D'une part, l'activité artérielle refoule le sang jusqu'aux extrémités. C'est l'homme qui refoule loin de lui sa propre essence, se répudie et se rejette. Alors ça, c'est les religions anciennes, la religion chrétienne. Et d'autre part, l'activité des veines reconduit le sang jusqu'au cœur. L'homme reprend dans son cœur l'essence rejetée. C'est ce que vient faire Feuerbach. Et ça, c'est très intéressant. Ça nous montre qu'il est au niveau du vivant. Et tout est dans une certaine, dans l'immanence du vivant. En tant que Dieu est le seul à agir de lui-même dans les religions anciennes, la religion chrétienne. Il est l'acte de la force centrifuge religieuse, c'est-à-dire qu'on rejette l'essence de l'homme hors de l'homme, on la met en Dieu, et en tant qu'il agit par moi, il est acte de la force d'attraction religieuse, c'est-à-dire que l'homme retrouve son essence, sa claire conscience de soi. Le cours du développement de la religion se résume donc en ceci: l'homme refuse toujours plus à Dieu pour s'accorder plus à lui-même. Ainsi, dans les temps anciens, l'homme pose tout sans distinction comme des réalités provenant d'un être autre que lui. C'est l'époque de la croyance à la révélation, et ainsi, citation, ce que les peuples incultes attribuaient à Dieu, les peuples modernes et civilisés le tiennent pour un don de la nature ou de la raison. Ce qu'on voit, c'est que plus l'homme se nie, plus il rabaisse Dieu à un être vulgairement humain. Bien sûr, parce que tout ce que l'homme ne fait pas, il faut que Dieu le fasse. En effet, chez les Israélites, l'homme renonçait à lui-même jusque dans sa capacité d'observer les convenances les plus ordinaires, et il faisait des règles de propreté un commandement divin. Ainsi, Dieu était rabaissé à donner des lois pour les choses les plus élémentaires. La religion chrétienne fit un progrès en séparant la propreté extérieure de la pureté morale tout d'intérieur. Elle rendit l'homme à lui-même pour toutes ces choses extérieures. Ainsi va le monde, ce qui était hier encore religion ne l'est plus aujourd'hui, et ce qui passe pour athéisme aujourd'hui sera demain religion. Voilà la pensée du Feuerbach. Maintenant, j'aimerais voir en un mot son rapport avec l'ontologisme proprement dit, en particulier avec saint Anselme et Malebranche. On voit que saint Anselme dit: l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Et il parle du cumaius cogitari non potest, c'est-à-dire ce dont on ne peut rien penser de plus grand, pour montrer que Dieu existe. Donc il passe de l'idée infinie à l'existence de l'être infini. Feuerbach, lui, ne partira pas du cumaius, mais quelque chose qui est très voisin, de l'infinité de la puissance qui est en nous, toujours la trinité divine intérieure, qui est infinie et qui est l'infinité de l'homme. Mais elle a ceci de semblable au Pomayou, c'est qu'elle est infinie intentionnellement. Donc tous les deux, ils passeront de l'infini intentionnel à l'infini réel. Seulement pour saint Anselme, il passera de l'infini intentionnel du Pomayou à l'infini réel de Dieu, et Feuerbach passera de l'infini intentionnel de des trois capacités, trois puissances humaines, à l'infini réel de l'homme qui est Dieu. Et puisque ce qui est divin, ce qui est infini. Voilà un petit peu.
Moi, il me semblerait que c'est plus un athéisme qu'un panthéisme. Parce que ce qui est Dieu, c'est vraiment, c'est l'homme dans son espèce. C'est-à-dire, c'est l'essence de l'espèce qui est Dieu. Donc, elle est une, l'essence de l'espèce. Et vraiment, je crois que c'est ça qui est Dieu chez lui. Ah oui, il le dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas rejeter en bloc, rejeter trop vite en disant qu'il n'est pas athée, puisque lui-même dit qu'il n'est pas athée, justement parce qu'il sauve ça. Pour lui, il donne la dénomination de Dieu. Mais Dieu, c'est un petit peu le concept de poubelle. C'est pas plus, c'est pas vivant. C'est ça, c'est les trois forces, la raison, la volonté, le cœur, qui sont dans l'espèce, qui sont l'essence de l'homme dans l'espèce, et ça, c'est vrai, c'est vraiment la divinité. Alors voilà, c'est ça, c'est nous, c'est un petit peu ce que l'on peut répondre. C'est en disant que Feuerbach est vraiment athée, parce que ce qu'il nie, c'est la transcendance de Dieu. Et on voit bien, la finalité de ses propres forces sont à l'intérieur de l'homme. Puisque l'homme, le cœur, c'est pour aimer, la volonté, c'est pour la puissance, et la connaissance, c'est pour la pensée. Donc elles ont leur propre perfection en elles-mêmes. Oui, je crois ça très fort. Et puis l'aspect, ce qui est très important, enfin ce que j'ai trouvé important, l'aspect, c'est qu'il donne une réinterprétation de l'Écriture, donc il s'oppose vraiment au mystère de la tradition de l'Église, pour nous. Il donne, c'est lui la mesure, et il réinterprète. Et c'est, je crois que c'est possible aussi que ça vienne de sa position protestante. Mais je crois qu'il... Oui. Il me semble.
L'immanence infinie de l'homme, il découvre l'immanence infinie de l'homme, et il n'est plus concevoir Dieu, il n'y a plus de place pour Dieu.
Oui, c'est l'homme qui est lui-même son Dieu.
Distinction entre rationnel et le réel qui commandent nos deux domaines. Et on retrouve la même erreur dans le sens de même genre que la position de notre vie. Entre Malebranche et Feuerbach, ils sont deux contraires dans le même genre.
Parce que c'est un anti-ontologiste, en fait. C'est vrai. Oui, mais alors la mort, c'est la limite de l'individu. Mais la mort, finalement, n'a rien à voir, parce que l'essence, elle appartient à l'espèce.
C'est pourquoi le conflit entre l'homme et Dieu est supprimé dans l'au-delà. Dans l'au-delà, l'homme n'est plus homme, du moins selon l'imagination seule. Il n'a pas de volonté propre distincte de la volonté divine. Et par suite, car qu'est un être sans volonté, il n'a pas non plus d'être propre. Il fait un avec Dieu. Mais dans l'au-delà, la différence et l'opposition entre Dieu et l'homme disparaît. Mais là-bas, comme il n'y a que Dieu, il n'y a plus de Dieu. S'il n'y a pas de contraire de la majesté, il n'y a plus de majesté non plus. Donc c'est difficilement résolu. C'est sûr que le problème, c'est la mort.
Mais la mort limite l'individu. Et si on regarde l'espèce, il n'y a pas de mort, parce que l'espèce, c'est au niveau de la vie, et ça peut... C'est éternel, c'est quelque chose d'éternel.
Et ça rappelle très fort ce que dit Aristote à propos de la génération des animaux, c'est que les animaux rejoignent l'éternel paisiblement. C'est sûr que chez Feuerbach, il n'y a plus aucune réalité, une notion de personne.
Parce qu'il n'a pas, il n'a pas de philosophie première. Et tout son sommet, c'est le vivant. Il reste pas, et il tourne avec sa logique au niveau du vivant. Mais il ne dépasse jamais le vivant. Ces trois forces vitales, c'est ça, sont des trois opérations vitales. Alors, ça serait intéressant de voir que le fondement pour lui, enfin, c'est ce qui me semblerait, que le fondement, ces trois forces, correspondent un petit peu pour nous à la substance. Et en fait, comme elles sont leur perfection en elles-mêmes, c'est un petit peu, c'est l'acte pour lui. Donc, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas de philosophie première, mais il se débrouille d'avoir quelque chose de très spirituel au niveau de sa philosophie à lui.
Tout à sa fin en soi. Mais ce qu'il dit de l'amour, c'est que l'amour permet de rejoindre l'espèce. Ah non, 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 il n'y a rien d'autre. Non, puisqu'il n'y a plus d'autre. Il ne peut pas y avoir d'amour d'amitié. Tout ce qui est autre disparaît.
Parce que l'objet... Et puis l'autre ne sert qu'à nous révéler nous-mêmes. L'autre me révèle à moi, c'est tout. Donc l'autre est toujours en rapport avec moi, c'est ce qui peut m'amener. Donc c'est le sentiment d'être aimé, etc. Il n'y a jamais d'amour volontaire, c'est jamais regarder l'autre en tant que lui-même et vouloir son bien. C'est toujours l'autre par rapport à moi. L'homme est vraiment, c'est le centre de tout.
Il parle un peu de la création.
Justement, il ne parle pas de la création.
C'est un autre problème.
Il faudrait voir ce qu'il dit. Alors ça ne regardait pas directement le séminaire. Ce qu'il dit, par rapport, il faudrait avoir toute l'essence du christianisme, sa critique du christianisme, pour savoir comment il interprète la création. Mais ça, il va le réinterpréter. Je ne vois pas comment ce qu'il peut dire sur la création.
Comment il pourrait en parler, de la création? Je crois que, n'est-ce pas, pour lui, on se situait comme une créature. C'est situé donc accepter les limites. Or, cette acceptation des limites, c'est pratiquement regarder son intériorité d'individu. L'individu peut être créé, mais pas l'espèce.
Oui.
Dieu est entre l'individu et l'espèce. L'individu, d'une certaine manière, soit créé, parce qu'il apparaît dans le temps. La procréation et la création sont la même chose, puisque l'être et la vie sont la même chose. Donc procréer ou être créé, c'est la même chose. Alors l'individu est procréé, c'est sûr, mais il est procréé au nom de l'espèce.
C'était terrible.
Et elle t'a fini alors. Voilà.
Rappelle les sources. Donc il ramène la création de la procréation comme une question de vie à l'intérieur même de ce que représente l'espèce qui est les sources.
Ah mais ils sont tous les deux du même. Il y a peut-être un autre lien plus profond.
Peut-être par le.
Je connais pas Nietzsche pour pouvoir te répondre.
Je sais pas. Peut-être par la volonté, puisque la volonté quand va être une perfection pour toi.
L'homme se définit par la création, parce qu'il est créateur. Mais là, c'est juste l'inverse. On a une loi de poisson dans l'eau aussi. C'est toujours l'impression qu'on a. On le voit dans l'espèce. Dans l'espèce, on pourra dire tout ce qu'on veut. Elle est infinie.
Individu en tant que Dieu à l'espèce. Mais il n'y a pas un Dieu dans chaque individu. Je ne crois pas que que Dieu soit compris dans chaque individu.
Chaque individu est porteur de l'espèce.
Oui.
Donc il est porteur de Dieu.
Oui. Mais il le porte en tant qu'il participe.
Il n'y a plus d'individu, il n'y a plus d'espèce. C'est l'expression qui dit. Dans le cas, il n'y a plus d'individu. Parce que l'individu meurt. Et d'abord, c'est le retour à l'espèce.
Oui.
Comme la naissance, c'est l'apparition dans une espèce. Espèce de panthéon de l'espèce, dans un sens où l'espèce est en Dieu. Alors, c'est ça. C'est la négation de la transcendance de Dieu, si on peut dire. Ils sont athées quand ils nient la transcendance de Dieu, mais ils ne sont pas athées en reconnaissant l'infini de Dieu.
C'est ça.
Il accepte d'être athée, non?
Non, 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 il dit justement qu'il n'est pas athée.
Il refuse.
C'est ce qu'il sent. Il refuse de faire athée.
Ah oui, absolument.
Et que, en fait, l'athéisme, si on le traite d'athéisme, pour lui, c'est qu'un passage qui va conduire à révéler la véritable religion.
La véritable religion, c'est la religion d'intériorité de l'espèce.
Non, pas du ça. Je ne sais pas grand-chose du tout.